ce soir, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir M. Laurent Tiroin. Donc, M. Tiroin, en plus d'être le papa d'Irène et de Joseph,
vous êtes de Jeanne aussi.
Vous êtes ancien normalien, agrégé de lettres modernes. Vous êtes professeur à l'Université de Lyon et spécialiste de la littérature française du 7e siècle. Et vous êtes venu ce soir pour nous parler de l'apologétique chez Pascal. Donc, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de parler devant vous et surtout de parler de Pascal. Et sur cette question de l'apologie, je crains de prendre un petit peu la question à brousse-poil dans un premier temps, parce que c'est un terme qui ne me convient pas beaucoup pour parler de Pascal. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en même temps, il me semble que mes conclusions devraient quand même nourrir votre réflexion sur l'apologétique. Parce que si on regarde la Vulgate aujourd'hui sur Pascal, ce qu'on est censé dire, ce qu'on est censé savoir, ce qu'on enseigne dans les lycées, dans les universités, c'est que ça serait la chose suivante. Donc je dis avec plein de prudence, parce que je vais vous dire, à mon avis, trois âneries. Hein. 4 ou 5 ans avant sa mort, ça c'est vrai, Pascal avait commencé à écrire une apologie de la religion chrétienne pour convertir les libertins. Voilà. Il n'a pas pu finir, vous le savez, et le brouillon de cette apologie de la religion pour convertir les libertins sont des bouts de papier épars qui sont les pensées, qu'on a appelées les pensées, et dont le titre réel, hein, mais ça tout le monde le sait, c'était « Pensées de M. Pascal sur la religion et quelques autres sujets qui ont été trouvés après sa mort parmi ses papiers ». C'est un titre un peu long, on a gardé les pensées de Pascal. Alors, à mon avis, les trois mots posent problème. Hein. Apologie de la religion pour convertir les libertins. Je vais essayer de vous montrer comment. On peut garder par commodité le terme d'apologie, puisqu'aujourd'hui, il s'est installé dans les mœurs, mais en sachant qu'il ne veut pas dire grand-chose, en réalité, quand on parle de Pascal. Et si ça veut dire que c'est un discours en faveur de la religion, il n'y a pas de doute. C'est un discours à teneur religieuse et plutôt favorable, ça tout le monde tombera d'accord. C'est un discours qui tente de répondre à des ennemis de la religion, ça n'est pas faux, mais on n'a pas beaucoup progressé quand on a dit cela. Donc je crains que le terme d'apologie, ça soit aujourd'hui un cache-misère intellectuel dans le cas précis de Pascal, qui serve à ne pas réfléchir sur ce que fait exactement Pascal, ou ce qu'il avait commencé à faire et qui n'a pas pu terminer, ce que la mort a interrompu. Alors, de façon très scolaire, je vais prendre mes trois mots pour vous expliquer de quelle manière ils me gênent. Hein. Et puis après, j'essaierai d'être plus constructif et de vous dire, à mon avis, ce que Pascal, non pas ce qu'il avait dans la tête, mais quelle était la dynamique de ce projet que l'on ne connaît pas. On est bien d'accord, hein. Personne ne sait exactement quel était le livre que Pascal méditait. Alors, prenons les trois mots qui m'ennuient. Apologie, d'abord. Alors, question toute bête, soyons historiques. Depuis quand et pourquoi parle-t-on d'apologie pour les pensées? On pourrait croire que c'était ce qu'ont dit les descendants de Pascal. Monsieur Pascal, Blaise Pascal, méditait une apologie, on a ses papiers, on n'arrive pas à la faire. Non, le mot est complètement anachronique. Il n'est absolument pas question d'apologie au XVIIe siècle. Et quand on regarde, bon ça je vais vite parce que c'est un peu anecdotique, mais quand on regarde les usages du terme apologie à l'époque de Pascal, au XVIIe, c'est presque systématiquement des personnes qui sont derrière. Apologie de monsieur machin, alors ça peut être l'apologie d'un livre qui est en même temps l'apologie d'une personne, hein. Ou l'apologie, l'apologia pro vita sua après de Newman, mais enfin, donc l'apologie c'est une défense, ou l'apologie de M. Balzac, par exemple, pour prendre un terme du 17e, j'en ai mis toute une liste. Voilà, alors depuis quand, et c'est pas très intéressant, hein, mais depuis quand on s'est mis à dire que Pascal méditait une apologie? Et surtout, et là c'est intéressant, pourquoi on a dit ça? Alors, la date, On peut la donner exactement, la personne, c'est Victor Cousin. C'est Victor Cousin au XIXe siècle, donc, et la première utilisation du terme d'apologie pour désigner les pensées de Pascal, c'est 1829. Bon, s'il y en a qui veulent des détails, je les leur donnerai. Victor Cousin, qui est intéressant pour nous, parce que vous savez, c'est le fondateur de l'enseignement de la philosophie en France. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement de philosophie, c'est ce qui vient des intuitions de Victor Cousin. Alors, pourquoi Victor Cousin a utilisé ce terme? Eh bien, par hostilité. Parce qu'en fait, c'est un terme qui a été utilisé par Cousin pour priver les pensées de toute légitimité intellectuelle et philosophique. Alors, j'ai apporté, pour que vous ne croyez pas sur parole, c'est très intéressant de lire Cousin. Alors, et pour les littéraires parmi vous, il y a un phénomène troublant, c'est que Victor Cousin est le grand redécouvreur des manuscrits de Pascal. C'est celui qui a dit, 1842, hein, le rapport Cousin à l'Académie française, c'est celui qui a dit « Comment se fait-il que depuis 1662, la mort de Pascal, on continue à éditer des textes fautifs alors qu'on a les textes autographes à quelques centaines de mètres de chez nous ?» Et donc on s'imagine que cet effort de Cousin pour restituer l'authenticité des pensées était une forme d'admiration pour les pensées. Et en fait, il n'en est rien. Ce que veut faire Cousin, Victor Cousin, c'est voir le texte authentique de Pascal pour montrer comment ce texte est insupportable. Donc, Pascal représente, et les pensées de Pascal, l'horreur absolue. Alors, je vous lis un peu de Cousin, c'est amusant, et vous allez voir que ça nous intéresse. Donc, le grand homme pour Cousin, c'est Descartes. Et la grande idée de Victor Cousin, c'est de fonder la recherche philosophique sur une acceptation de tous les philosophes, ce qu'il appelle l'éclectisme. C'est-à-dire qu'avec avec Descartes, avec l'Aristote, avec les grands, on constitue une sorte de réflexion philosophique. Or, Pascal représente pour lui l'antiphilosophe, donc l'homme à abattre. Or, je vous lis un passage du rapport Cousin. « Osons le dire, l'homme dans Pascal est profondément original, mais l'esprit créateur ne lui avait point été donné. En mathématiques, il n'a point fait de ses découvertes qui renouvellent la face de la science, telles que l'application de l'algèbre à la géométrie. Le seul grand calcul auquel son nom demeure attaché est celui des probabilités. Et Fermat partage au moins avec Pascal l'honneur d'avoir commencé ce calcul. En physique, il a démontré la pesanteur de l'air que Descartes avait trouvé 12 ans même avant Torricelli. En philosophie, il n'a fait autre chose que rallumer la vieille guerre de la foi et de la raison, guerre fatale à l'une et à l'autre. » Voilà. Et un peu plus loin, Victor Cousin accuse Pascal d'avoir fait, vous voyez, c'est intéressant pour nous, pour la question qu'on se pose, d'avoir fait une sorte d'opération malhonnête, c'est-à-dire de fonder l'adhésion au christianisme sur la ruine de la raison. Donc comme une sorte de nouveau Hué, donc Hué, peut-être pas quelqu'un que vous lisez tous les jours, c'est un ecclésiastique du XVIIe siècle, qui a écrit un traité philosophique de la faiblesse de l'esprit humain, et Cousin dit, Pascal appartient à cette école, lui aussi, il a pour principe que le pyrrhonisme est le vrai, c'est une formule de Pascal, et tant d'autres déclarations de la même sorte, dont on voyait déjà quelque ombre dans les anciennes éditions, et qui paraissent aujourd'hui à découvert dans les fragments nouveaux que nous avons publiés. On pourra en reparler, c'est très intéressant, il y a quelqu'un que certains d'entre vous ont peut-être eu comme professeur qui s'est passionné pour cette question, c'est Hubert Aupetit, qui a regardé de très très près comment Victor Cousin avait joué un rôle majeur dans la réception du texte de Pascal. Et pour Cousin, le grand livre de Pascal, c'est les provinciales. Ça, c'est magnifique. C'est la lutte contre les jésuites, contre la pensée jésuite. Et dit-il, c'est ma dernière citation de Cousin, ça suffira, « Le livre des pensées jeta incomparablement moins d'éclat. » Vous voyez, c'est frappant, hein. Au milieu du XIXe siècle, le grand Pascal, c'est celui des provinciales, Les pensées, c'est atroce, c'est une apologie. Donc apologie, ça veut dire rejet de la philosophie, pour cousin, hein, ça veut dire destruction de la raison pour essayer de fonder sur ses ruines une sorte de construction religieuse, c'est intolérable. Voilà, donc déjà, quand on entend le terme d'apologie, ça nous interdit pas de l'utiliser. Mais il faut bien voir qu'il a été introduit dans l'histoire du texte pour des raisons hostiles et pour lutter contre ce que contenait ce texte. Alors, avançons. Vous avez une apologie pour convertir. Pour convertir. Alors, tout de suite, les gens qui connaissent un peu Pascal et qui savent qu'il appartient à Port-Royal, que Port-Royal, c'est un repère d'augustiniens de stricte obédience, de partisans de la grâce efficace, et que quand on croit à la grâce efficace per se, efficace par elle-même, il est évident que Pascal ne pouvait pas avoir l'intention de convertir qui que ce soit par un écrit. Donc, l'idée, à mon avis, que je vois autour de moi à chaque fois que j'enseigne Pascal ou que je parle de Pascal, et souvent à des incroyants, et même parfois à des chercheurs, et même parfois à des bons chercheurs sur Pascal, c'est qu'ils se font de la conversion une image très rhétorique et en même temps très inepte et très incompatible avec ce qu'ils savent par ailleurs de Pascal. Pascal, qui ne croyait qu'à l'efficacité de la grâce, pouvait-il s'être mis dans la tête qu'il avait quelque chose à faire pour convertir les autres? Alors je vais prendre, j'ai toujours pas cité mon auteur, donc je vais citer un texte, peut-être pas très souvent cité, un texte très court, qui me donne à réfléchir. 739, toutes mes citations sont dans l'édition Cellier, hein, livre de poche. Les hommes prennent souvent leur imagination pour leur cœur. Ils croient être convertis dès qu'ils pensent à se convertir. Donc, le texte est intéressant, il fonctionne sur deux oppositions, vous voyez. L'opposition très pascalienne, imagination, cœur, et que le cœur, pour un augustinien, comme Pascal, c'est le siège de la volonté, le siège de la décision. C'est pas dans un sens strictement affectif, c'est quasiment le synonyme de volonté. Donc première opposition, et deuxième opposition, il croit être converti dès qu'il pense à se convertir. Donc il y aurait deux moyens d'aller vers Dieu, il y aurait la conversion, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, de plus près et de façon plus substantielle, et puis une sorte de velléité, de penser à se convertir, qu'on confondrait avec la conversion. Donc éventuellement, Pascal aurait pu écrire quelque chose pour faire penser les gens à se convertir. Mais je rajouterai sur cette question de la conversion, encore une fois, sur laquelle je veux revenir tout à l'heure, je ne m'en tiens pas quitte avec ces quelques remarques, je rajouterai un point qui est essentiel et qui est sans doute connu de vous, c'est le très vigoureuse anti-théisme de Pascal. Pascal est vigoureusement hostile au déisme. Et pour lui, le déisme et l'athéisme ne sont pas choses très différentes. Je cite, fragment 690, « Le déisme, écrit Pascal, presque aussi éloigné de la religion chrétienne que l'athéisme qui est tout à fait contraire. » Ou encore, dans le même texte, parle de ces gens qui tombent ou dans l'athéisme ou dans le déisme, qui sont deux choses que la religion chrétienne aborde presque également. Et la dureté du verbe abhorrer. Un chrétien aborde le déisme. Alors il y a bien une nuance, hein, presque également, mais l'idée est là. Hein. L'athéisme est tout à fait contraire à la religion chrétienne, le déisme l'est un peu moins explicitement, mais en fait c'est la même chose. Et je recite encore un passage, mais que vous devez avoir dans la tête, hein, de Pascal, très célèbre, toujours dans 690, la lettre pour porter à chercher Dieu et ses succès et ses séquelles. Hein. Quand un homme serait persuadé que les proportions des nombres sont des vérités immatérielles, éternelles et dépendantes d'une première vérité en qui elles subsistent et qu'on appelle Dieu, je ne les trouverai pas beaucoup avancés pour son salut. Voilà. Vous voyez, dans le devenir chrétien, je reviendrai sur ce point tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un passage logique. Il ne s'agirait pas de quelque chose comme une croyance sous-jacente à une croyance plus précise. Comme on pourrait dire, je suis athée, puis je me mets à croire qu'il y a quelque chose, que le monde ne s'est pas fait tout seul, qu'il y a un grand horloger, je deviens déiste, et puis après j'entre progressivement, et je connais de mieux en mieux Dieu, et je passe du déisme progressivement à un véritable christianisme. Pour Pascal, et c'est une formule qui est dans la conclusion, dans la d'Elias Classé, il faut croire d'une créance utile et de foi. Et cette créance utile et de foi exclut totalement le déisme. Donc il y a une foi qui est une foi utile et une foi inutile. Et donc Port-Royal a intitulé un chapitre, le chapitre 20, je rentre pas dans les histoires d'édition de Pascal, hein, on ne connaît Dieu utilement que par Jésus-Christ. Donc, un des grands principes de Pascal, c'est que si on ne va pas à Dieu par Jésus-Christ, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de ne pas aller à Dieu du tout ou y aller sans que ce soit par Jésus-Christ. Ça ne fait pas de différence. Donc, et non seulement ce refus, vous voyez, du théisme fait qu'une apologie est non seulement impossible, mais elle serait même dangereuse. C'est-à-dire qu'elle inviterait à une certaine forme d'erreur religieuse. Ce à quoi l'on accéderait par raison, par le biais d'une apologie, serait une sorte de fausseté de Dieu, impossible et nuisible pour une vie de foi. J'ai dans la tête un article dont je me contente de vous donner la référence, peut-être que vous l'avez rencontré, qui est un très très bel article, à mon avis il faut le lire dans une réflexion sur l'apologie. C'est un article de Vincent Carreau qui est paru dans Communio en 2014, qui s'appelle l'apologétique inactuelle au féminin, l'apologétique actuelle au masculin. C'est-à-dire qu'il oppose une apologétique, création allemande, protestante, du XIXe siècle, et un apologétique qui a sa source chez les pères de l'Église, notamment chez Tertullien. Voilà. Mais je ne développe pas ce point, car j'ai un troisième ennemi à combattre. Je vous dis que Pascal n'a pas écrit une apologie, il n'a pas voulu convertir, et il ne se soucie pas des libertins. Alors ça, c'est une découverte récente, très récente même. Je suis tombé des nues quand je me suis posé une question que j'avais jamais osé me poser. Enfin, ça fait j'ose pas vous dire depuis combien de dizaines d'années je travaille sur Pascal, et j'ai lu des tas d'articles, le Paris est-il écrit pour le libertin, qui est le libertin de Pascal. Récemment, il y a un an, un de mes collègues et bons amis, dont je vous passe le nom, a écrit un petit livre intitulé « Pascal et son libertin ». Comme on s'intéresse énormément aujourd'hui à la pensée libertine du XVIIe siècle, l'idée c'est, en comprenant bien qui est le libertin pour Pascal, on comprendra mieux ce qu'écrit Pascal. Et qu'est-ce que, en aidant un thésard, en lui expliquant deux, trois choses, en fait, il ne comprenait pas très bien le mot impie. Donc je regarde un peu le mot impie, et je me rends compte de quelque chose d'ahurissant, c'est que le terme de libertin est à peu près absent de l'œuvre de Pascal. Il est totalement absent des pensées, pas une seule fois, et il n'apparaît qu'une fois dans toute l'œuvre de Pascal, qui est dans la quatrième provinciale. Voilà. Quant au mot de libertinage, on le trouve deux fois seulement dans l'expression « par libertinage ». Donc le libertin n'appartient pas au vocabulaire de Pascal. Et tout ce qu'on nous explique sur le rapport de Pascal au libertin, donc, et toute cette idée, en fait, on l'a élaboré progressivement, on a créé ce Pascal écrivant une apologie pour convertir un libertin. Apologie est un terme qui n'est jamais employé par Pascal, qui n'est pas employé au XVIIe dans ce sens-là. Convertir, c'est une impossibilité pour Pascal, une impossibilité religieuse. Et libertin, ce n'est pas une de ces catégories anthropologiques. Vous voyez, tout ça est quand même un petit peu en train de se casser la figure quand même. Et ça veut dire que on a inventé, on a reconstruit quelque chose qui nous convient bien, parce que ça donne du sens à cette œuvre inaboutie, mais qui ne va pas. Alors, le mot qui revient en permanence chez Pascal, c'est le terme d'impie, les impies. Mais les impies, c'est un terme presque descriptif. Les impies, c'est ceux qui ne sont pas religieux. C'est que ceux qui ne sont pas pies. Je lis, par exemple, dans un texte qui n'est pas très souvent cité, un projet de mandement que Pascal a écrit, « Les impies tirent de ces abus, » les abus, c'est ceux des jésuites, hein, toujours, « les impies tirent de ces abus des conséquences contre la vérité de notre religion, capable d'ébranler les faibles. » Donc, il y a les impies d'un côté et notre religion de l'autre. Là, c'est des catégories pascaliennes. Voilà. On peut dire aussi, peut-être, que dans le terme de libertin, nous, on le comprend peut-être pas toujours aussi précisément qu'au XVIIe, c'est un terme assez positif, en fait, libertin. Libertin, le libertinus, c'est celui qui s'est libéré, c'est l'affranchi, c'est celui qui s'est guéri des mauvaises doctrines. Donc, il est assez difficile pour Pascal de parler de libertin de la même manière que les catholiques du XVIIe siècle ne supportaient pas de parler de réformés, puisque ça voudrait dire que les protestants sont revenus à la vraie foi. Et donc, vous savez très bien qu'on ne les appelle pas des réformés, mais des prétendus réformés. Ceux qui disent qu'ils sont réformés, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas réformés, bien sûr, puisque ce sont des hérétiques. Pour Pascal, bien. Alors, arrivons-en... Ça, c'était ma pars destruens, hein. Il faut quand même arriver à une pars construens. Donc, arrivons-en à réfléchir un peu, puisque on s'est confortablement installé dans une caricature... et que cette caricature, j'essaye de vous convaincre qu'elle n'est pas satisfaisante, que Pascal pouvait-il bien avoir derrière la tête quand il jetait des choses sur les papiers, qu'il les réunissait pour en faire des liasses très bizarres, hein, absolument passionnantes, des liasses qui correspondent à rien, qui ne sont pas des chapitres, mais qui sont un parcours intellectuel et un parcours spirituel. Donc, il avait bien une intention. Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Donc, ce qu'on ne s'explique pas en l'appelant apologie, mais qui est peut-être, après, une certaine forme d'apologie. Pourquoi pas ? Alors, ma première réponse, elle est toute bête, toute simple. C'est un peu un mémorial, au départ. C'est-à-dire que un élément qui a été bouleversant pour Pascal, sur lequel on n'insistera jamais assez, je ne parle pas de la nuit de feu, évidemment importante, hein, mais dont on parle beaucoup, je parle d'un autre élément qui est absolument capital, c'est le miracle de la Sainte Épine. Hein, le miracle de la Sainte Épine, 24 mars 1656, c'est la guérison miraculeuse de la nièce et filleule de Pascal, Marguerite Perrier. Alors, c'est un événement bon, qui nous laisse un peu désemparés, parce qu'on se dit que ça relève de cette espèce de piété tendue vers le merveilleux, qui était peut-être plus vraiment la nôtre. C'est pas notre question ici. Je vous signale, pour ceux qui voudraient en lire plus sur le miracle de la Sainte Épine, vous avez un texte qu'il faut absolument lire, qui est une merveille. C'est les 4-5 pages de Racine dans l'abrégé de Port-Royal consacré à la narration de cet épisode. C'est grandiose, hein ? Mais bon, ça, je n'ai pas le temps de vous les lire. Alors, dans la vie de Pascal, écrite par sa sœur Gilberte, on lit l'évocation de ce miracle. Donc, je vous résume les choses, mais ce n'est pas très important. Donc, la petite Marguerite Perrier, pensionnaire, une fillette de 10-12 ans, hein, pensionnaire chez les religieuses de Port-Royal, avait une fistule lacrymale, c'est-à-dire un abcès dans l'œil qui était en train de se développer horriblement, si bien que ça ressortait par la bouche, ça lui détruisait toute la face, la puanteur était horrible. C'est raconté par Racine, hein. C'est raconté merveilleusement par Racine. Je vous le signale, je vous fais envie. Hein. Bon, on avait désespéré. Il faut se mettre ça en tête. C'est pas que je veuille faire du grandiloquent, du grandiose, mais il faut comprendre le choc. Donc, on avait désespéré de guérir cette fillette, et la dernière solution, c'était d'apposer, d'essayer de guérir la maladie avec un fer rouge, un fer chauffé au rouge, dont vraisemblablement la fille allait mourir. Donc on attendait que le père arrive pour cette opération de la dernière chance. Et c'est à ce moment-là que la petite fille est miraculeusement guérie par cet attouchement d'une épine de la couronne d'épines du Christ. Et voilà ce que raconte Gilberte. Mon frère fut sensiblement touché de cette grâce qu'il regardait comme faite à lui-même, puisque c'était sur une personne qui, outre la proximité, était encore sa fille spirituelle, était à la fois sa nièce et sa filleule, dans le baptême. Et sa consolation fut extrême de voir que Dieu se manifestait si clairement dans un temps où la foi paraissait comme éteinte dans les cœurs de la plupart du monde. La joie qu'il en eut fut si grande qu'il en était pénétré, de sorte qu'en ayant l'esprit tout occupé, Dieu lui inspira une infinité de pensées admirables sur les miracles qui, lui donnant de nouvelles lumières sur la religion, lui redoublèrent l'amour et le respect qu'il avait toujours eu pour elle. Bon, je vous lis quand même le paragraphe suivant, et vous allez voir, il est intéressant. C'est toujours Gilberte qui parle après la mort de Pascal. Et ce fut l'occasion qui fit naître, ce fut l'occasion. Donc pour Gilberte, tout est parti du miracle de la Sainte Épine. Ce fut l'occasion qui fit naître cet extrême désir qu'il avait de travailler à réfuter les principaux et les plus faux raisonnements des athées. Il les avait étudiés avec grand soin, il avait employé tout son esprit à chercher les moyens de les convaincre, c'est à quoi il s'était mis tout entier. Et la dernière année de son travail a été tout employée à recueillir diverses pensées sur ce sujet. Mais Dieu qui lui avait inspiré ce dessein et toutes ses pensées n'a pas permis qu'il les conduise à sa perfection pour des raisons qui nous sont inconnues. C'est une autre histoire, mais qui est intéressante, le scandale de la mort de Pascal à Port-Royal. Quand Pascal est mort, son entourage était convaincu qu'il était en train d'écrire quelque chose qu'on n'avait jamais écrit et qui allait bouleverser la mission dont on entendait parler à l'homélie tout à l'heure. Le kérigme n'allait plus être présenté de la même manière après Pascal. Pascal meurt, les gens ne comprennent pas, et donc ils essayent de retrouver ce qu'il avait voulu faire. Donc oui, la première idée de Pascal, j'ai été un peu narratif, je vais devenir un peu plus conceptuel, ne vous inquiétez pas. La première chose, mais je crois qu'elle est importante, Pascal se sent extraordinairement touché lui-même par un miracle qui manifeste une élection de Dieu et qui demande une réponse de reconnaissance. Rendre à Dieu, comment rendrai-je à Dieu tout ce qu'il a fait pour moi, que ferais-je? Donc, je vais célébrer ce miracle. Je vais écrire quelque chose qui manifestera la gloire de Dieu. Donc, il ne s'agit pas de convertir ici, il s'agit de répondre, mais en même temps de faire savoir que ce miracle marque la puissance de Dieu. Et donc, on sait très bien, pour des raisons érudites et complexes sur lesquelles je passe, on sait très bien que Pascal a commencé ce qui est pour nous les pensées par une sorte d'exploitation du miracle. Donc, écrire un texte pour tout le monde, on va voir pour qui tout à l'heure, mais écrire un texte qui manifesterait la puissance de Dieu. Or, très rapidement, Pascal se rend compte qu'un miracle n'a aucune puissance pour convaincre, pour convertir. Que ce miracle dont il a lui-même été transporté n'a aucune efficace, de quelque sorte que ce soit, sur d'autres que lui. Et donc, le début des pensées, c'est une sorte de travail de deuil. Et donc, il y a quelques liasses, il y a trois liasses préliminaires, où Pascal pensait utiliser les miracles pour servir la foi. N'allons pas plus loin dans les précisions. Or, ça ne va pas. Les miracles ne donnent rien. Les miracles ne peuvent pas convertir. Alors, que fait-il à partir de là? Il se fixe une mission. Puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être un petit peu schématique. Une mission qui est bien résumée dans un texte qu'on cite souvent, mais qu'on a raison de citer souvent pour parler de l'entreprise de Pascal, c'est le fragment 46 dans Les Pensées, édition Cellier. Alors, c'est un fragment qui s'intitule « Ordre ». Et en fait, quand on regarde le manuscrit, je vous ai apporté, là tout d'abord vous pouvez regarder, j'ai apporté une photo du manuscrit. C'est intéressant parce que Pascal avait commencé à écrire « Division ». Et Pascal déteste les divisions, et donc il n'a même pas fini le mot « division », et il l'a remplacé par « ordre ». Et le texte, vous le connaissez tous, mais je le relis quand même, parce qu'il est d'une netteté, et en même temps d'une actualité qui nous met vraiment à une grande proximité de Pascal. Donc, « les hommes, écrit Pascal, ont mépris pour la religion. Ils en ont haine et peur qu'elle soit vraie. Pour guérir cela, il faut commencer par montrer que la religion n'est point contraire à la raison, vénérable, en donner respect, la rendre ensuite aimable, faire souhaiter au bon qu'elle fût vraie, et puis montrer qu'elle est vraie. Vénérable parce qu'elle a bien connu l'homme, aimable parce qu'elle promet le vrai bien. » Bon, c'est très simple, c'est un texte, Pascal n'est pas toujours aussi simple, mais c'est un texte vraiment programmatique. Vous voyez, qui est double. Deux objectifs, hein, et deux difficultés. Pascal est face à des gens qui ont à la fois peur et mépris. La religion suscite en eux la haine. Ils ont peur qu'elle soit vraie. Donc, à cela, il faut montrer le contraire, qu'elle est aimable. Et pour Pascal, c'est quelque chose d'essentiel, qu'elle est aimable, c'est-à-dire... En quoi elle est aimable? Je le redirai. Combien il me reste? Un quart d'heure?
C'est toi qui tiens le...
J'ai pas
de
montre, je
peux faire. Ah bah oui, non. Vous êtes fichu, là. Hein. Ouh, alors là. Bon, bon. C'est plus qu'il n'y a plus d'arbitre, là. Vous êtes...
J'espère que vous avez... 10 minutes,
bon,
un quart d'heure.
Un quart d'heure, ok. Donc, ils ont... Donc, il faut montrer que les promesses, ça c'est très important, les promesses de bonheur de la religion... sont des promesses dignes d'être convoitées. Donc, autre question, donc les hommes ont peur et ils ont aussi mépris. Mépris, donc, parce que la religion leur paraît une sottise. Et donc, il faut montrer à la fois qu'elle est vénérable parce qu'elle a bien connu l'homme et qu'elle est aimable, je reprends les termes de Pascal, parce qu'elle promet... le vrai bien. Donc, défense conjointe de l'intelligence et de l'amabilité du christianisme, ce qui n'a rien à voir avec sa véracité et sa, et qui ne va pas vous conduire à la conversion, évidemment, mais qui pourrait au moins vous faire sortir de cette situation de peur et de mépris. Et en cela... On pourrait dire que Pascal, c'est une formule qui n'est pas de moi, mais que j'ai trouvée quelque part et que j'ai adoptée parce que je la trouve très, très parlante. Il a fait comme une sorte de révolution copernicienne de l'apologétique. C'est-à-dire que, au lieu de montrer aux hommes que Dieu existe, que Jésus-Christ est celui qui nous le fait connaître, et donc qu'il faut croire en Jésus-Christ, Pascal part de l'idée que Dieu n'est pas là, qu'on ne le voit pas, qu'il a disparu du spectacle du monde. Pascal est un savant, il est un acteur majeur de la révolution mécaniste. Je vous ai apporté, bon, je le lis quand même, le texte est très beau, c'est dans l'entretien avec M. de Sacy, et c'est un texte qu'on n'entend pas, c'est avant l'entretien lui-même. Je sais que je l'ai porté, mais je l'ai perdu. C'est M. de Sacy qui se fâche contre le mécanisme. Bon. Dommage. Bon. Et donc M. de Sacy dit « Le soleil nous montre Dieu ». C'est une image de Dieu. Tout est une image de Dieu. Or, vous connaissez tous le texte. extrêmement célèbre, commenté, y compris par Valéry, hein, dans cette variation sur une pensée, le texte 233 Célier, « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Un texte qu'on cite souvent, auquel on ne réfléchit peut-être pas toujours suffisamment. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi y a-t-il ici un silence éternel? Vous savez que, dans la cosmologie antique, le monde étant un cosmos, et non pas un univers infini et sans bornes, le cosmos était musical. L'ordre faisait entendre une musique. Et cette musique pouvait être une sorte de chant qui pouvait vous conduire à l'architecte même, au concepteur. Or, pour Pascal, ce qu'il y a à voir, c'est rien. Il n'y a rien. Et le monde est silencieux. Dieu ne parle pas, Dieu ne se donne pas à voir. Pascal est extrêmement virulent. Hein. Le texte le plus méchant, celui-là je vous le lis quand même, c'est 644, préface à la deuxième partie. Et là je suis en plein dans la question de l'apologétique. Parler, dit Pascal, de ceux qui ont traité de cette matière, de l'apologétique. J'admire avec quelle hardiesse ces personnes entreprennent de parler de Dieu. En adressant leur discours aux impies, leur premier chapitre est de prouver la divinité par les ouvrages de la nature. Je ne m'étonnerai pas de leur entreprise s'ils adressaient leur discours aux fidèles, car il est certain que ceux qui ont la foi vive dedans le cœur voient incontinent que tout ce qui est n'est autre chose que l'ouvrage du Dieu qu'ils adorent. Vous comprenez bien, Pascal ne congédie pas la méditation du chrétien devant la nature qui peut l'élever à Dieu. Mais dit-il, et je continue, pour ceux en qui cette lumière est éteinte et dans lesquels on a dessein de la faire revivre, ces personnes destituées de foi et de grâce, qui recherchant de toute leur lumière tout ce qu'ils voient dans la nature qui les peut mener à cette connaissance, ne trouvent qu'obscurité et ténèbres, dire à ceux-là qu'ils n'ont qu'à voir la moindre des choses qui les environnent et qu'ils y verront Dieu à découvert, et leur donner pour toute preuve de ce grand et important sujet le cours de la lune et des planètes, et prétendre avoir achevé sa preuve avec un tel discours, c'est quoi? C'est leur donner sujet de croire que les preuves de notre religion sont bien faibles. Et je vois par raison et par expérience que rien n'est plus propre à leur en faire naître le mépris. Et on revient sur le mépris. Pascal dit par raison et par expérience. Les deux termes sont intéressants. Hein. Par expérience, parce qu'il s'est rendu compte que beaucoup de personnes avaient été détournées de la foi par ses discours. Et par raison, c'est encore pire. Parce qu'il lui semble normal que quelqu'un du XVIIe siècle, quelqu'un de moderne, soit détourné de la foi par ses discours. Donc, quand je vous parle d'une révolution copernicienne, elle consiste à dire à l'incroyant qu'il a raison. Hein ? Il a raison de ne pas voir Dieu, puisque Dieu n'est pas là. Que Dieu ne se donne pas à voir, qu'il se cache. Alors, c'est la grande thématique du Dieu caché. Deus absconditus, hein, le terme d'Isaïe, « Tu verrai es Deus absconditus », sur lequel Pascal revient en permanence. Mais, avec quelque chose, je me suis rendu compte aussi récemment, qu'il fallait préciser, il ne s'agit pas d'un Dieu caché, c'est-à-dire caché en cela qu'il serait difficile à trouver, qu'il demanderait une grande capacité pour le voir, un Dieu égaré quelque part, mais c'est un Dieu qui se cache. Hein. Le Deus absconditus, le participe passé, doit être compris comme la conséquence d'une volonté de Dieu de se cacher. Pourquoi veut-il se cacher? Pour qu'on le cherche. Et non pas qu'on le tente. Et c'est une opposition qui me paraît centrale chez Pascal, l'opposition entre tenter Dieu et chercher Dieu. Je me contente de la signaler, et puisqu'il me reste que 5 minutes, je vais vite sur les dernières choses que j'avais prévu de vous dire. On parle de preuves. Il y a des preuves dans le texte de Pascal. Mais peut-être qu'on est un peu naïf dans l'usage que Pascal fait du terme de preuve. Et le dictionnaire du XVIIe, le Furtière, celui qui est l'entrée dans la langue du XVIIe, nous signale bien, preuve se dit aussi des signes, des marques de la vérité de quelque chose. Dieu nous donne tous les jours des preuves de son amour. Vous voyez, quand on parle des preuves de Dieu, il faut en tout cas bien garder en tête que le mot preuve a deux sens. Hein. De même que quand on dit, dans la formule habituelle, hein, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Hein. Bon, une preuve d'amour, ce n'est pas une démonstration, c'est une marque, c'est quelque chose qui se donne à voir. C'est une preuve parce que ça s'éprouve. Or, je vous cite un passage assez difficile à comprendre de Pascal, c'est dans l'Alias APR. Alors, c'est doublement difficile parce qu'APR, on ne sait pas ce que ça veut dire et que le texte n'est pas très clair. Je cite, « Je n'entends pas, c'est la sagesse de Dieu qui parle. » Et c'est un texte qui demanderait vraiment qu'on s'arrête dessus, il est extraordinaire. Hein. « Je n'entends pas que vous soumettiez votre créance à moi sans raison. » La sagesse ne veut pas s'imposer à l'homme sans sa raison, contre sa raison. Elle ne veut pas le soumettre. « Je ne veux pas que vous soumettiez à votre créance à moi sans raison. » C'est toujours la sagesse qui parle. Sagesse de Dieu, et ne prétend point vous assujettir avec tyrannie. C'est un point que je me contente de signaler. Si Dieu s'imposait à l'homme contre la raison de l'homme, ça serait une marque pour Pascal de tyrannie. Vous savez que le terme de tyrannie a un sens particulier hein, dans le vocabulaire de Pascal, qui consiste à une usurpation d'un ordre sur un autre ordre. Donc, Dieu qui veut satisfaire l'homme tout entier, doit aussi satisfaire la raison de l'homme. Et c'est là que les choses sont impossibles à traiter en trois quarts d'heure, hein, mais c'est là que l'articulation de la raison doit être faite, ce que je fais peu ce soir. Mais je reprends mon texte de Pascal. Donc, je ne prétends point vous assujettir avec tyrannie. Je ne prétends point aussi vous rendre raison de toute chose. Et pour accorder ces contrariétés, j'entends vous faire voir clairement par des preuves. Vous faire voir par des preuves convaincantes, des marques divines en moi qui vous convainquent de ce que je suis, et m'attirer autorité par des merveilles et des preuves que vous ne puissiez refuser, et qu'ensuite vous croyiez les choses que je vous enseigne quand vous n'y trouverez autre sujet de les refuser, sinon que vous ne pouvez par vous-même connaître si elles sont ou non. Bon, le texte mérite beaucoup de commentaires, je ne les fais pas. Et je m'achemine vers ma conclusion à vous dire deux, trois choses que j'ai très envie de vous dire, et donc je les dis. C'est une apologie, maintenant qu'on accepte de réfléchir sur ce terme, qu'on ne le prend pas comme une sorte de concept qui sert à tout, c'est une apologie ben, au sens de Saint-Pierre, hein, au sens de où le terme, vous savez, est toujours cité hein, dans la première épître de Pierre. Est-ce que j'ai mis la traduction oui. Soyez, de Pierre 3,15, hein, soyez toujours prêts à la défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alors, le texte est important parce qu'il y a le mot « apologia » dedans, hein. Etoi moi aei pros apologian panti toautanti humas logon perites en humin elpidos. Alors, chose soulignée par Vincent Caro et essentielle et très très souvent passée sous silence, l'apologie, telle qu'elle est définie dans la lettre de Saint-Pierre, c'est pas une apologie de la foi, c'est une apologie de l'espérance. On doit rendre compte d'une espérance et pas d'une croyance. Et est-ce que vous avez fait attention, peut-être pas parce que je l'ai lu très vite, hein, dans le texte qui m'a servi de guide, là, le 46, « Les hommes ont mépris pour la religion », vu que Pascal dit « Il faut commencer par montrer qu'elle n'est point contraire à la raison, vénérable, en donner respect, la rendre ensuite aimable, et c'est la formule suivante qui m'arrête. » Faire souhaiter au bon qu'elle fût vraie. Et c'est le au bon qui demande qu'on notre surprise. Il ne s'agit pas de faire souhaiter que ça soit vrai. Il s'agit de faire souhaiter à une certaine catégorie de personnes qui sont ceux qui sont bons, c'est-à-dire qui sont à la hauteur d'une espérance. Donc ce qui se joue dans ce que maintenant j'accepterai parce qu'on est plus, on est conscient des choses, j'accepterai d'appeler l'apologie de Pascal, hein, il s'agit de parler des promesses à ceux qui sont aptes à espérer en ces promesses. En d'autres termes, l'apologie est l'apologie d'une espérance, et un homme se définit, un homme ou une femme, un être humain, se définit par la promesse à laquelle il croit. Citation de Pascal, « Rien ne marque davantage une mauvaise disposition du cœur que de ne pas souhaiter la vérité des promesses éternelles. Hein, » On vaut par les promesses auxquelles on croit, on se définit par son espérance. Et c'est là qu'il faudrait que je vous parle un peu du pari de Pascal, sur lequel on dit beaucoup de choses qui ne vont pas, hein, car le pari de Pascal, évidemment, je vous ai dit tout à l'heure que Pascal était hyper ennemi du déisme. Donc le pari de Pascal, tel qu'on le résume habituellement, c'est un argument déiste. Il n'a aucun... Et puisque Pascal est antidéiste, Pascal ne peut certainement pas dire que si Dieu est génial, si Dieu n'est pas, j'ai rien à perdre, donc on peut parier que Dieu est. Tout le monde a dit, Dieu, mais quel Dieu ? Ça vaut pour n'importe quel Dieu, le pari de Pascal, résumé comme ça. C'est pas ça qui se joue dans le pari de Pascal. Dans le pari de Pascal, et ça je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse, il s'agit vraiment de mettre l'homme devant une espérance ou une absence d'espérance. Est-ce que vous êtes prêt à espérer en quelque chose, ou est-ce que vous voulez vraiment n'espérer en rien ? Et le pari nous dit, d'une certaine manière, et ça je peux vous le prouver, c'est un peu compliqué mais c'est passionnant, à ceux qui ne veulent rien, eh bien, sera donné exactement ce qu'ils veulent, à savoir rien. Vous avez la possibilité de... Vous serez à la hauteur de votre espérance. Je termine en parlant... Tout le monde connaît le divertissement pascalien, ça fait partie des choses qui se sont attachées à l'œuvre de Pascal. C'est un concept fascinant, c'est une aberration, le divertissement. Vous savez tous que Pascal ne condamne pas le divertissement. Hein, il l'examine, il l'admire, il lui fait horreur, il condamne, il se moque des gens qui condamnent le divertissement. C'est les demi-habiles qui condamnent le divertissement. Par contre, ce qui frappe Pascal dans le divertissement, c'est cette espèce d'absurdité qui permet à quelqu'un qui vient de perdre son fils unique d'oublier la mort de ce fils en tapant contre une balle. Donc c'est la capacité d'obnubiler, de terme du 17e, hein, de cacher l'essentiel par l'accessoire. Donc il y a, dans le divertissement, il y a une sorte de destruction métaphysique qui fascine Pascal. Et si je vous parle du divertissement, c'est pour conclure, comme je vous l'avais annoncé, sur la question de la conversion. Et je vous lirai un texte que j'aime beaucoup, qui est dans la conclusion. Ouais, joli, c'est fini. Ouais. Oui, on revient sur le miracle. Et vous allez voir pourquoi je parle du divertissement. Si j'avais vu un miracle, disent-ils, c'est incroyable, je me convertirai. Pascal commente. Comment assure-t-il qu'il ferait ce qu'ils ignorent ? Il s'imagine que cette conversion consiste en une adoration qui se fait de Dieu comme un commerce et une conversation, telle qu'il se la figure. La conversion véritable consiste à s'anéantir devant cet être universel qu'on a irrité tant de fois et qui peut vous perdre légitimement à toute heure, à reconnaître qu'on ne peut rien sans lui et qu'on n'a rien mérité de lui que sa disgrâce. Elle consiste à connaître qu'il y a une opposition invincible entre Dieu et nous et que sans un médiateur, il ne peut y avoir de commerce. Donc, Pascal joue avec les mots. Conversion, conversation, divertissement. On pense à la conversion comme à une conversation, comme si on entrait en contact avec un Dieu. Et là, l'apologiste serait l'espèce de truchement, celui qui vous met en contact. Je vous présente, voilà, Irène, Dieu, enchanté, je vous laisse tous les deux ensemble, voilà. C'est grotesque, on s'imagine notre rapport à Dieu, vous avez vu le terme que utilise Pascal, comme un commerce, comme un échange. Voilà. Or, ça n'est pas ça. C'est une sorte, d'une certaine manière, de suicide, d'absurdité, d'un risque absolu. D'un risque absolu que nul ne peut prendre à votre place et que Pascal ne peut absolument pas conduire quelqu'un à prendre. C'est-à-dire qu'il faut, s'anéantir pour être relevé par ce Dieu. Mais au moment où l'on s'anéantit, évidemment, on est sans protection. Il n'y a pas de, filet. Hein. Et immédiatement après, la raison revient. Et la raison qui ne vous a pas conduit à Dieu est celle qui vous réjouit de votre conversion, qui permet à Pascal d'écrire une très belle liasse, soumission et usage de la raison. Voilà, j'ai essayé très rapidement de parcourir quelques petites questions liées à la conception de l'apologie par Pascal. Donc vous avez vu que le mot même d'apologie est à prendre avec prudence, mais le travail de Pascal, c'est une dynamique de conversion qui, évidemment, ne lui appartient pas, mais qui est une sorte de mise de l'homme devant, devant la gravité essentielle de son espérance.
Peu de temps pour des questions. 5 minutes exactement, dit l'arbitre.
Bon, je vous avais apporté un truc. Pascal, je voulais vous le dire, désolé. Super. Regardez, ça c'est le sceau de Pascal. Après le miracle de la Sainte Épine. Après le miracle de la Sainte Épine, Pascal a changé son cachet. Il l'a remplacé par une couronne d'épines. Une couronne d'épines entourée par la formule, qui est la formule de la deuxième lettre à Timothée. Et voilà, ça je voulais absolument vous le dire, qui est la devise de Pascal, tirée de Saint Paul. Scio cui credidi. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et donc, vous voyez, il y a le moment de la mise de la confiance, le credo, j'ai fait confiance, mais une fois que la confiance est accordée, le savoir revient. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Voilà, excusez-moi. Il s'agit d'un miracle de la vue, hein, de l'œil. Si vous ne posez pas de questions, je me relance une conférence.
J'en ai peut-être une sur la lettre pour penser à chercher Dieu, que vous avez citée tout à l'heure. C'était dans cette lettre, Pascal, il y a une sorte de dialogue avec un croyant. Enfin, du moins, l'impie a la parole à certains moments. Et je me demandais comment est-ce qu'on fait pour savoir quand est-ce que l'opinion de l'impie est partagée par Pascal, quand est-ce que...
On ne sait jamais. Hein. Je parlais de cette très célèbre formule « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Elle est comme ça dans les pensées. Et donc ça a donné lieu à des débats interminables avec des gens qui disaient « C'est une citation de l'incroyant. C'est l'incroyant qui est effrayé. » Mais évidemment, Pascal ne peut pas être effrayé par un... Et d'autres disaient « Mais non, c'est la foi. Tout croyant est confronté à ce silence. » Voilà. Alors, ce que je peux vous répondre qui me paraît important, deux points. Le pronom personnel qui est omniprésent dans les pensées, et je crois qu'il faut le remarquer, c'est le « nous ». Pascal parle très très souvent à la première personne du pluriel. Et dans cette lettre pour porter à chercher Dieu, il y a un passage qui me paraît très touchant, qui est un mélange d'horreur devant la non-recherche, c'est ce qui fait horreur à Pascal, et en même temps le sentiment que tout un croyant est peut-être l'image de ce que lui est appelé à devenir. C'est-à-dire que Alors ça relève de ce qu'on appelle parfois, à mon avis, sottement, hein, le jansénisme de Pascal. Je trouve que c'est sot, c'est la crainte de l'abandon. Il me semble que c'est plus une sorte d'amour filial. Qu'est-ce qui a plus peur d'être abandonné qu'un enfant qui est totalement tributaire de ses parents? Et tout enfant se dit, mon Dieu, mais si je perds maman, là, qu'est-ce que je deviens? Je vais être tout seul? Ou s'il venait à mourir, qu'est-ce que je ferais? La crainte d'être abandonné. Et Pascal, il y a le sentiment permanent que ce Dieu qui s'est donné, il ne le possède pas. Il pourrait ne plus être là. Et que ces gens à qui il parle pourraient être bien plus chrétiens que lui ne l'est en ce moment. Et donc, ça serait ça ma réponse. Il y a cette conviction qui est très, très... Je n'ai pas le temps de chercher le texte, là, le passage, dans l'aide pour porter à chercher Dieu, que tout un croyant est une sorte d'image virtuelle de ce que Pascal pourrait devenir. Voilà, comme il est dit dans le mémorial, hein, le mémorial qui est un très très beau texte, hein, qui demande vraiment des méditations, qui est à la fois un texte de jubilation, joie, joie, pleurs de joie, la grandeur de l'âme humaine, et en même temps le sentiment que ce Dieu qui se présente, qui se donne à voir, est un Dieu que je ne possède pas, dont je ne dispose pas, donc qui peut disparaître, qu'il ne m'abandonne jamais.
C'est marrant, c'est très proche de la manière dont Luther comprend la foi.
Oui.
Je suis d'accord. Luther polémique contre la foi comme vertu, puisque la vertu, c'est un habitus.
Voilà.
Et il dit, mais c'est toujours... C'est une remise totale de soi à un autre. Et la foi, c'est pas je dispose de Dieu, c'est Dieu dispose de moi en tout.
Voilà, ouais. C'est incontestable.
Alors, je pense qu'il y a quelque chose de l'époque, hein. C'est commun.
Oui.
C'est vraiment la foi de l'homme moderne. Hein. Ça fait penser à Kierkegaard aussi. Moi, c'est pas vraiment une question, mais j'étais, quand vous parliez d'un Pierre 3,15, j'ai le vague souvenir, qu'il y a quand même dans des vieilles versions latines, j'ai pas lu l'article de Vincent, mais qu'on a complété prendre raison de l'espérance, on a mis avant, il y a dans certains manuscrits en tout cas, de la foi et de l'espérance.
Ah oui, qu'il y a des manuscrits qui.
Oui. Mais dans des versions latines, j'ai le souvenir de ça.
Parce que là, moi j'ai la Vulgate simplement, mais là,
non,
là
en
voilà.
Grec, ouais. C'est clair, en grec,
En grec, il n'y a pas.
Et même dans la Vulgate, je pense.
Dans la Vulgate, je l'ai là. Hein. Parati semper ad satisfactionem omniposcentivos rationem de ac quae nobis est spe.
Ouais, donc il n'y a pas la foi.
Non.
Mais je remarque aussi, c'est toujours cette idée que. Comment dire, le déisme, c'est un dieu tellement impersonnel que ça ne change rien, qu'il faut que je sois concerné. Mais je vois par exemple la liaison de la foi et de l'espérance, elle est aussi posée dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux par exemple. La foi, et bon, c'est la définition de la foi, hein, saint Thomas part de ça quand il veut définir la foi, Hébreux 11, verset 1, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère.
Voilà.
Et un tout petit peu plus loin.
C'est vrai, mais.
C'est écrit très petit, donc j'ai du mal à.
Mais elle est donc. Dans ce texte-là, oui, qui est toujours celui qu'on prend pour définir la foi, elle est donc seconde par rapport à l'espérance.
Oui, c'est ça. Mais elle est liée, en tout cas, elle est liée. Alors, plus clair encore, c'est au verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça, c'est très pascalien, je trouve. Il ne suffit pas de dire croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il faut, si j'attends rien de Dieu, ça ne me sert à rien, en fait.
Sur le pari, vous voulez que je vous en remette une couche? Je suis très prosélyte parce que ça... Voilà, non mais très vite.
Une minute de couche.
Ouais. Bon. Au milieu du pari, vous avez cette formule qui est cela ôte tout parti. Hein. Une formule qui n'a pas été lue en fait avant Braunschweig, avant la fin du 19e siècle. Même mon cousin a découvert le Abétissez-vous, donc il trépignait de joie parce que ça lui montrait à quel point on avait affaire à des anti-intellectuels. Vous savez que le pari, bon, c'est fondé, bien sûr, sur un raisonnement de type probabiliste.
D'espérance.
Voilà, d'espérance.
Non, c'est l'espérance.
Voilà, d'espérance. Mais il s'agit très exactement d'une exploitation à des fins morales et religieuses d'un problème qui est un problème mathématique qui avait été posé par Méré à Pascal et qui a été résolu par Pascal et Fermat conjointement de deux manières différentes, qui était faire le parti d'un jeu. Faire le parti d'un jeu. Et donc, si on veut lire le pari de Pascal de manière vraiment très pascalienne, il faut bien comprendre ce mot de parti en I, hein, P-A-R-T-I, c'est-à-dire une répartition, une division. Donc faire le parti d'un jeu, ça veut dire, si un jeu de hasard ne peut pas aller jusqu'à son terme et qu'on est obligé de l'interrompre, comment doit-on répartir les mises entre les deux joueurs? Si quelqu'un a gagné une manche, qu'un autre a gagné deux manches, et que la partie était en trois manches, qu'est-ce que je fais des mises qui sont sur la table? Donc aujourd'hui, la réponse, eh bien, il faut que ça soit proportionnel à la probabilité de gain de chacun des joueurs. Donc vous voyez, les deux questions sont connexes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le parti, c'est la répartition liée à une interruption. Donc ce que je veux vous dire, enfin, ça me paraît vraiment la clé de ce texte, il ne s'agit pas dans ce texte de parier pour Dieu ou contre Dieu. Il ne s'agit pas d'arriver en disant « qu'est-ce que je choisis ? Je choisis Dieu ou je choisis pas Dieu ?» Il s'agit de savoir si j'arrête ou je n'arrête pas un jeu dans lequel je suis pris. Donc je suis pris dans un jeu que je peux interrompre. C'est la règle des parties. Et le mathématicien est convoqué pour dire « eh bien, en cas d'interruption, je vais vous calculer ce que vous allez reprendre, avec quoi vous quittez la table de jeu. » Et ce que dit précisément le mathématicien dans le cas du fragment des pensées, c'est « il n'y a pas de partie, cela ôte tout partie ». Cela ôte tout partie, c'est-à-dire que si vous quittez cette espérance, vous pouvez la remplacer par une possession. Toute espérance équivaut à une possession. Eh bien, vous allez la remplacer, je calcule, je regarde, eh bien, rien. Vous partez, et à la place, je vous donne rien. Donc, est-ce que ce que vous voulez, c'est rien? Et à mon avis, c'est là le cœur même de l'argument. C'est pour ça que cet argument fascine. Et ce n'est pas pour les résumés qu'on en fait. Hein, sinon, il ne fascinerait pas. Ce qui fascine, c'est qu'il met existentiellement quelqu'un devant son désir du néant. Son désir d'interrompre un jeu de l'interruption duquel il ne tirera rien, il tirera la mort. Je choisis la mort. Est-ce que ce que vous voulez, c'est le néant? Pas de problème. Vous le voulez, vous l'aurez. Voilà. Donc c'est existentiellement, c'est un texte quand on prend au sérieux la métaphore mathématique qu'il sous-tend, hein, et là c'est très très clair, hein, je peux
ça
développer. Ça change tout.
Robert n'a rien compris, alors Manu Chémaud...
Alors Manu Chémaud, il n'avait pas compris. Mais dans Contes divers, il a tout compris. Et c'est dans Contes divers qu'il a compris. Ouais. Et oui, il faut regarder Contes divers, bien sûr, puisque dans Contes divers, il s'agit de quelqu'un qui décide d'attendre l'impossible, alors qu'on lui propose un certain nombre de solutions. En termes de mariage, elle ne les prend pas, parce qu'elle est dans cette attente de ce qui vraisemblablement ne viendra pas, mais cette attente même est pour elle gratifiante. Et puis, dit-elle, si jamais il arrive. Non, Romère est un des rares qui a compris le pari.